Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 110e émission. Gilles Gouget dans le micro, Pascal Rullier de l'autre côté de la vitre. Bonsoir Pascal.
Et oui, ça me change un peu d'être de ce côté.
Et oui, c'est vrai que d'habitude, c'est un petit peu le contraire. Une 110e divergence numérique que vous pouvez écouter évidemment sur le 93.9 de Divergence FM, mais aussi chez nos amis de Radio Escapade dans le nord du département.
103.3, 104.1 et bientôt sur le 102 aussi du côté de la salle.
Et puis, trois fois par mois, ou trois ou quatre fois par mois, sur la Voix du Libre, sur CKIA à Québec.
Et oui, bonjour à tout le monde, et puis aussi sur le net, divergence-fm.org pour nos amis belges, suisses, francophones en tout cas.
Aujourd'hui, dans le sommaire, eh bien, après la traditionnelle revue de presse de l'April, amenée par Luc Fievé et Emmanuel Charpentier, qui nous emmèneront voir plein de choses, que ce soit ce qui se passe en Tunisie, que ce soit utiliser les principes du libre pour contrôler la société du tout jetable, des alternatives à Office, l'utilisation de logiciels pirates en France, habituels, les anonymes, le libre près de chez vous, une nouvelle campagne de l'April ou de nouveaux modèles d'affaires. Ce sera le contenu de cette revue de presse immanquable, traditionnelle. Suite à quoi, on abordera la première JSSI Montpellier-Rennes, une journée autour de la sécurité des systèmes d'information qui aura lieu le 26 mai. Ce sera avec Éric Bullier qui fut un chroniqueur assez régulier dans les toutes premières années de Divergence numérique.
Et oui, puis on poursuivra aussi avec un deuxième invité, Pascal Fedel, délégué général de l'ADULACT.
L'association des utilisateurs de logiciels libres pour les collectivités, l'administration et les collectivités territoriales, qui co-organise ce 25 mai la 8e journée territoriale du logiciel libre et qui organisera fin juin, les 23 et 24, la 3e édition de son congrès annuel. Mais une divergence numérique ne serait pas une divergence numérique s'il n'y avait pas un petit peu de musique.
Et oui, on va prendre en fil musical la dernière des compilations Dub Tentacles du bon net label Fresh Pulp Records.
Et pour terminer, on fera un retour sur les cinémas Utopia qui organisaient leur ciné libre. C'était ce dimanche 15 mai 2011 avec une interview fort bien menée par Pascal Rullier de David Revoy, jeune artiste toulousien autodidacte de 25 ans qui présentait les trois films de la Fondation Blender projetés dans le cadre de ce petit déjeuner projection ciné libre au cinéma Utopia. En l'occurrence, c'était Elephant Dream, Big Buck Danny et Sintel. Et puis quelques réactions du public. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on aura peut-être un petit peu de temps pour l'agenda du libre, mais ça me paraît super serré pour ce soir.
Oui, tout à fait. Tout de suite, les nouvelles du front, alors.
Des nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Des nouvelles du front à laquelle nous n'avons rien à ajouter cette semaine.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 19. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors la grosse pêche.
Eh oui, on recontinue les revues de presse, hein, donc petite revue de presse quand même, 6 articles, 7 articles.
Non, ouais.
Six. On va reparler encore de le printemps arabe, on va parler le durable, les alternatives à Office, le piratage, c'est mal, surtout qu'en France, on dirait que c'est une habitude. Donc les Anonymous, le libre près de chez vous, une nouvelle campagne de l'April, et toute une discussion sur les nouveaux modèles d'affaires.
Donc premier article 01 Net Pro, le vent de la révolution de Jasmin souffle sur Solution Linux.
Solution GNU Linux. Hein,
c'est écrit Solution Linux, moi je lis ce qui est écrit.
Ils sont trompés.
Donc en tout cas l'article est d'Alain Clapeau.
Voilà, ils sont pas très bons au niveau des nommages, hein, mais ça c'est pas de leur faute. Donc on reparle encore donc, des pays arabes et de la Tunisie.
Oui, essentiellement de la Tunisie dans cet article. L'article de tout ce que tu as lu, tu me disais que c'était quand même le plus intéressant, en tout cas le plus nuancé dans son propos.
Et oui, beaucoup d'articles qui parlent justement de la Tunisie à Solution GNU Linux. Ils avaient un gros stand, t'es passé devant comme moi et
Non, j'ai raté, j'ai oublié en fait.
Voilà, mais j'ai vu, moi, ils étaient vraiment installés, bien installés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de stands. Et donc là, bah, ils ont discuté avec du lourd, hein. Ils ont discuté avec ce cher Éric Besson.
Ils en ont de la chance.
Donc,
il ne les a pas reconduits à la frontière.
Il ne les a pas reconduits à la frontière ce coup-ci. Non, ils ont serré la main et ils ont fait des deals, ils ont fait des échanges de business. Il semblerait qu'il y a beaucoup de trucs en cours de signature pour la prochaine fois où Éric Besson sera en Tunisie.
Voilà. Alors, dans l'article, parce qu'on est comme là pour parler de l'article, il est fait mention par la personne qui est interviewée que la Tunisie perdait ses ingénieurs et qu'il y en a plein qui partaient bosser en France et que la France leur piquait leurs ingénieurs et que ça commençait à bien faire.
Il se plaignait clairement, ça fait longtemps qu'on vole du cerveau et de la matière grise.
Voilà, enfin bon, la matière grise en question, je pense, est assez contente de venir là. L'article parle aussi de la question de la corruption en disant que c'est bien joli, ce serait sans doute super d'aller faire du business en Tunisie, mais qu'il y a une tradition du dessous de table et autres qui fait que c'est compliqué. Que cette révolution va peut-être amener à changer les choses et faire qu'il sera plus facile de faire du business en Tunisie.
Va sûrement améliorer les choses, hein, mais c'est important, et je pense qu'il s'arrange, et justement, il y a beaucoup de gens qui, semblerait-il, rentrent chez eux pour monter des boîtes et lancer du business, en association avec la France dans certains cas, et d'autres fois, par eux-mêmes, hein, non, je trouve ça bravo.
Voilà, parce que chez nous, la corruption, il n'y en a jamais, hein, donc chez nous, ça se passe toujours très bien.
Heureusement, alors là, vraiment, un tabuse. Hein. Alors donc là, le durable, donc c'est un article silicone.fr, détour, utiliser les principes du libre pour contrer la société du tout jetable de David Feuget. Donc un article qui parle de quelqu'un qu'on connaît déjà.
Voilà, Tan Niem, qui est une femme qui a monté une association, une ONG, qui travaille dans le domaine du développement durable. On la connaît bien parce qu'on a une émission à côté qui s'appelle Symbiose, on va se faire un petit peu de pub, et on lui a consacré une émission, elle est venue nous parler de son livre. Donc on a
Des abeilles et des hommes,
donc on a, si ça vous intéresse, allez chercher sur Dogmazik, à peu près... une heure et demie de Tan Niem, bon, avec un petit peu de musique au milieu, qui est quelqu'un qui a des propos très très intéressants, parce que c'est quelqu'un qui vient initialement du monde des affaires, etc.
Oui, c'est du lourd.
Qui a changé son fusil d'épaule.
Elle était professeure à Sciences Po, quelque chose comme ça.
Oui, non mais elle était aussi dans la finance et tout, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Elle a changé son fusil d'épaule il y a une bonne dizaine d'années pour faire du développement durable, travailler sur notamment la mise en place de quartiers durables comme BZ en Grande-Bretagne. Elle a fait des trucs équivalents en France, donc c'est quelqu'un qui a un passé vraiment d'action dans le domaine du développement durable, quelqu'un qui a un spectre d'intérêt extrêmement large, qui a lu beaucoup de choses, rencontré beaucoup de monde.
Elle a l'air d'avoir une culture incroyable. J'ai pas réussi à la bloquer sur tous les sujets qu'on a pu lui lancer à la dernière émission.
Voilà. Et elle a des propos sur le libre qui sont très intéressants, puisqu'elle s'intéresse beaucoup au logiciel libre. Elle dit, cash, hein, que le libre est bien plus fondamental que le durable. Et ça, c'est quelque chose d'assez osé.
Oui, généralement, on entend le contraire. Hein. Le durable est plus important que tout le reste, hein, et le logiciel libre c'est du tout le reste, hein, et alors que elle non, c'est fondamental, c'est vraiment le point de départ, hein, qui permet de faire du vrai durable, de l'échange d'idées, de la construction, de la pollinisation.
Tout à fait, donc la question de pollinisation est très importante dans son propos. Elle dit notamment que dans le domaine du développement durable, il y a eu toute une période avec les grandes entreprises qui l'ont mis en avant, les grands plans, les machins, et qu'en fait ça marche juste pas, et que si on veut qu'il y ait un changement du monde, ça passe par la base, et que justement le libre dans le domaine, il a des leçons à donner. Un système de partage, hein, qui est un système d'économie au sens large et au sens noble du terme, qui est très original, et que c'est là que ça se joue, et que si on veut amener à des changements fondamentaux profonds de la société, ça se passera par la base, et que le modèle du libre est vraiment une voie probablement la plus importante et la plus prometteuse des voies disponibles.
Elle critique l'obsolescence et l'obsolescence accélérée, elle propose des changements de société massifs, et elle se base sans l'open source, pas d'internet, sans internet, pas de Facebook ou Twitter, etc. Et donc elle veut vraiment construire quelque chose de nouveau, de neuf, hein, sur le logiciel libre et la culture libre. Bravo.
Voilà, donc allez voir notre émission, même bon, c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir. Vous pouvez aussi lire son bouquin, mais voilà. Je pense qu'on est de ceux qui lui ont donné le plus la parole, hein, donc ça vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Je crois qu'elle a été passée sur France Culture aussi, mais
5 minutes, voilà. Article de ICT Journal, les alternatives à Office, un argument pour négocier avec Microsoft, par Rodolphe Koller.
Donc un article donc, qui reprend des arguments qu'on a déjà utilisés ici. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont passer au logiciel libre ou à des suites Office en ligne.
Pas libre du tout.
Et pas libre du tout pour l'essentiel. Hein. Il y a des choses qui sortent en ce moment, il semblerait. Mais en tout cas, donc, c'est un argument commercial pour faire plier Microsoft et pour récupérer des licences d'Office, par exemple, à moins cher.
Voilà, c'est le résultat d'une étude Forrester, qui s'intéressait justement à l'adoption de ces solutions qui montre que ça reste très très marginal. Et une des conclusions de l'étude était de dire que ça servait finalement d'argument commercial. Donc ça, c'est un grand classique qu'on connaît, qu'on a vu plein de fois avec des grandes déclarations en disant hop, on passe au logiciel libre, hop, on va tout changer. Et Microsoft rapplique derrière en disant ok, on va faire un effort, etc. Donc c'est bien malheureux, ça fait un petit peu mal.
Ça fait très mal, hein. J'avoue que c'est dégoûtant. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi les rabais. Est-ce que de temps en temps, Office n'a pas été vendu à 0€ ou 0$ juste pour casser les reins à des nouveaux marchés. Je serais curieux de savoir, et je ne le saurais probablement jamais, car ce sont des choses qui sont assez secrètes.
En tout cas, ce qui serait bien, c'est à minima, c'est que ça puisse mettre la pression sur Microsoft pour qu'il y ait un peu plus d'interopérabilité entre les formats.
Ouf.
Ah, j'ai du mal. C'est un argument qui pèse, en tout cas, qui, pour la partie web aujourd'hui, leur pèse assez lourd. Moi, professionnellement, je suis allé sur un salon, et j'ai un petit peu joué avec un fournisseur, et je lui dis oui, mais blabla. Ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès là-dessus. Donc, si vous achetez du Microsoft dans votre environnement professionnel ou autre, n'hésitez pas à poser la question, ça leur mettra un petit peu la pression.
Oui, et ça, il n'y a rien de tel, ça fait du bien à tout le monde. Donc, article suivant, pipelette.com, comme toi. Hein. Utiliser des logiciels pirates, une habitude culturelle par la rédaction. Et donc, un article assez long et d'un nouveau site que je ne connaissais pas du tout, pipelette.com, qui parle d'une autre étude faite sur 116 pays. Et une étude dont je sais qu'elle est faite par le BSA, il semblerait. Hein, donc, c'est pas des gentils, je sais plus ce que ça veut dire business. Enfin, c'est un truc de Microsoft en gros. Et faite sur 116 pays qui montre que la France, semblerait-il, aime bien les logiciels pirates.
Oui, pirater. Donc l'idée, c'est que en fonction des cultures, on pirate plus ou moins. Alors peut-être qu'en fonction des cultures, on le déclare plus ou moins facilement.
Oui.
C'est aussi la différence, il faut voir comment l'étude a été faite. Bon, c'est une étude menée par une association de logiciels propriétaires, Microsoft, etc. Donc, il faut la prendre avec un maximum de pincettes. Et l'article, justement, fait remarquer qu'il y a plein de logiciels qui sont piratés, ici notamment Photoshop, et qui sont des logiciels professionnels pas abordables pour des particuliers ou même pour des petites boîtes qui n'ont pas un usage intensif.
Ça coûte un bras et un premier-né.
Voilà. Et que du coup, le piratage a toujours été un moyen de faire connaître et diffuser un logiciel. Et Microsoft Office, à une certaine époque, il y a une quinzaine d'années, il y avait des versions pirates qui diffusaient de partout, avec une façon de faire de l'auto-formation auprès des étudiants et tout ça. L'attaque sur le piratage, c'est un peu de l'hypocrisie, dit l'article, parce qu'on sait bien que ça joue à double tranchant.
Oui, sans oublier, ça c'est le petit clou sur le cercueil, il ne faut pas pirater parce qu'on risque énormément de se récupérer avec un cheval de Troie, un gros virus qu'on installe soi-même et qu'on lance soi-même dans son ordinateur, c'est con.
Conclusion, mettez du logiciel libre.
Voilà, c'est bon, et mangez-en. Donc, un autre article vraiment intéressant, t'as interpellé.
Ah oui. Oui, alors assez étonnant parce que bon, les Échos, on connaît le genre de journal que c'est, et quand on voit un truc, donc c'est les anonymes, hein, c'est pas les Anonymous, tous les anglicismes sont traduits en français, donc on commence à rigoler, mais en fait on a tort parce que l'article est super bien foutu.
Et vraiment bien documenté, il semblerait. Il commence avec Sony et le piratage de son réseau, le PSN, qui a été qui est cassé depuis un mois. Il semblerait qu'il y a eu 100 millions de comptes utilisateurs et de cartes de crédit qui ont été volés.
Alors pour les cartes de crédit, on n'est pas vraiment sûr, mais peut-être.
Oui,
si vous aviez un compte, vérifiez quand même votre compte bancaire.
Ça peut pas faire de mal.
Et changez vos mots de passe aussi.
Et là, le gars des Échos accuse, ou en tout cas non, reprend ce que dit Sony et qui accuse les Anonymous d'avoir cassé son site PSN. Et il met en avant, les Anonymous, c'est des gros méchants et qu'ils sont tellement forts que Sony ne pouvait rien faire contre eux. Alors, je sais par ailleurs qu'en fait, ils ne sont pas forts du tout. Hein, leur réseau, il semblerait, était vraiment mal foutu. Mais bon, et ils attaquent les Anonymous qui, eux, s'en défendent et disent non, rien à voir, nous, on ne s'intéresse pas aux cartes de crédit, on s'intéresse à des choses plus intéressantes, plus politiques.
Alors, l'article est quand même bien fait là-dessus. Il dit notamment que dans les Anonymous, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des hackers de très haut niveau, qu'il y a des gars qui sont juste intéressés, qui bidouillent, qui font un petit coup comme ça, puis qui disparaissent derrière. Il parle également de la structuration, en expliquant que personne ne se met en avant, et que c'est une sorte de collectif.
Une vraie fédération.
Oui, mais sans structure, enfin un truc assez étonnant. Et c'est intéressant de voir ça dans un article, comme dans un journal comme Les Échos, où je ne pense pas que ça sorte dans la version papier, faut voir. Mais où justement ça s'adresse à des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, dans les administrations, donc exactement l'inverse de ce truc-là. Et la conclusion est encore plus intéressante, où il explique tout le fonctionnement et toute la partie démocratique, mais dans une version qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pratiquée, et où il explique que c'est peut-être à ça que ressemble la démocratie de demain, et que c'est tout le poids d'Internet et d'une nouvelle éthique qu'il y a sur le partage et sur le bien commun, et que c'est peut-être ça qui nous attend, et on ne sait pas ce que ça va donner. Lui, il indique que c'est peut-être pour le meilleur ou pour le pire.
Oui, je pense, j'ai peur qu'il ait peur du pire, il parle de l'émergence d'activistes.
Voilà. Voilà, on voit ça chez nous aussi, hein. On prend la quadrature du net, regard citoyen, etc., qui sont des gens qui ont mis en place des outils qui n'existaient pas avant pour faire de la politique, pour surveiller, pour comprendre ce qui se passe, et c'est des trucs qui montent en puissance, ça va d'une férocité, d'une puissance terrible, ce genre de choses. Et donc voilà, ça va amener des changements considérables, et on sait que des lois comme Adopi a amené des générations, enfin à chaque fois, Adopi l'avait fait, Adopi, à chaque fois, y a des groupes de hackers qui viennent à la politique, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et qui aborde la politique en hacker, et ça peut faire très très mal.
C'est bigrement intéressant, c'est la vague du cyberactivisme. À mon avis, on est en train de voir émerger quelque chose de nouveau. Bon, on verra.
Alors, article suivant, itrmanager.com, le libre patch chez vous, une nouvelle campagne de l'April par la rédaction. Bon, là-dessus, on peut passer rapidement, hein, ça parle de nous, donc on est content. Le libre patch chez vous, c'est une campagne qu'on a lancée, tu veux peut-être en parler parce que...
Oh, mais non, t'as contribué tout autant, il me semble que t'as fait des enregistrements.
Donc c'est une campagne, l'idée, c'est toujours cette idée de pollinisation qui est assez à la mode, il faut l'avouer, et qui consiste à demander à chacun, aux adhérents, etc., de faire la promotion du logiciel libre autour de chez eux, en installant des trucs, en expliquant sa famille, ses voisins, comment ça marche, et puis d'aller sur le site correspondant, puis de dire voilà ce que j'ai fait. Comme ça, on fait une sorte de petite collection et on se motive les uns les autres à y aller, quoi.
Essayer de remonter un petit peu ce que les gens font, c'est des plus intéressants, c'est bien.
Voilà, donc cité dans ITR Magazine, Manager, pardon.
Donc, et pour finir, la presse affaires vers de nouveaux modèles d'affaires de Marley Posebon et Thierry Gâteau.
Voilà, donc un article canadien.
Donc, des gens, notamment d'HEC, qui parlent justement de nouveaux modèles économiques en partant de ce qui s'est passé au Brésil. Le Gilberto Gil, le ministre de la Culture, qui avait dit, voilà, il n'y a pas de création isolée, il faut reprendre le passé et s'élaborer dessus.
Voilà, Gilberto Gil, qui a été donc un musicien bien connu, qui a mis en avant les Creative Commons, et il semble que depuis qu'il est plus ministre, le Brésil est carrément fait marche arrière sur le sujet. D'après les informations qu'on a, c'est assez malheureux.
C'est rageant.
Mais en tout cas, l'article parle de toute cette logique du libre et de la création artistique et de l'éducation. Cite toute une série de ressources.
Les plateformes collaboratives, d'innovation ouverte, là où les gens peuvent partager et recréer des nouvelles choses en partant d'un existant. Et l'article explique notamment les licences de droits de propriété intellectuelle. Alors, c'est peut-être c'est pas grave.
Dernier truc rigolo, il cite la production cinématographique du Niger, hein, ce qui est assez étonnant.
Et oui, on le sait pas, hein, c'est pas Hollywood qui produit le plus de films au monde, pas non plus.
Bollywood.
Et oui, on pourrait croire Bollywood, c'est en Inde. Oui. Et non, c'est Nollywood.
Donc le Niger qui produit 2000 films par an avec un budget moyen de 20 000 euros, ce qui est quand même pas mal pour un pays comme le Niger. Et c'est... où il explique il y a des tas de gens qui produisent dans leur coin avec des réseaux très éparpillés, etc. Enfin, l'exemple est très intéressant.
C'est un vrai exemple de construction par en dessous. Bravo. Continue comme ça.
Bon, salut Manu, à la semaine prochaine.
Salut Luc, et salut Divergence.
Revue de presse de l'April, april.org. Dans cette divergence numérique, une petite pause musicale avec notre fil conducteur de cette émission. C'est la compilation Dub Tentacles volume 3 de Fresh Pulp. Fresh Pulp, un net label orléanais. Et on écoute tout de suite De Balala par A Man Call Pidgey. Et c'est en licence Creative Commons by NCSA 2.0.
Et un morceau bien dub, électro-dub, dub, électro-dub, c'est la sélection du jour pour cette 110e divergence numérique sur Divergence FM 93.9 ou Radio Escapade ou La Voix du Libre sur CKIA Québec, mes bons amis. Et tabarnak, Pascal, mais qu'est-ce que c'était donc cette musique ?
C'était Dubalala, A Man Called, PJ extrait de la compilation Dub Tentacles, volume 3 du net label Fresh Pulp.
Ce 26 mai 2011 aura lieu la première JSSI Montpellier-Rennes. Casaco, c'est une journée montpelliéraine de la sécurité des systèmes d'information. Une info qu'on a eue bien ces jours derniers et évidemment, il fallait que nous invitions les organisateurs ou l'organisateur, et quelle ne fut pas ma surprise de m'apercevoir que c'était Éric Bullier qui organise cette journée montpelliéraine de la sécurité des systèmes d'information. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Éric Bullier, que les auditeurs les plus anciens de Divergence Numérique ont connu assez régulièrement, puisque tu venais tous les 15 jours ou... Ah non, à l'époque c'était mensuel l'émission.
Mmh. Oui, tout à fait.
Donc de temps en temps, tu venais comme ça nous faire un petit lexique de la sécurité informatique. Et à l'époque, tu bossais pour une entité qui a déménagé de Montpellier.
Oui, tout à fait. Oui, je travaillais pour le ministère de la Défense, hein, pour ne pas le citer, effectivement, qui a quitté nos murs.
Voilà, c'était à l'EAI.
Tout à fait. Tout à fait.
Cette première journée montpelliéraine de la sécurité des systèmes d'information se tient donc ce 26 mai et a pour objectif divers de favoriser de façon durable l'émergence d'une culture SSI dans les entreprises du Languedoc-Roussillon, mettre en avant les compétences régionales, dynamiser le marché de la sécurité dans son ensemble. La sécurité informatique, c'est aussi vieux que l'informatique. Est-ce à dire que c'est un univers un petit peu sclérosé aujourd'hui en France?
Moi, je vais faire très attention à ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui écoutent et puis il y a des professionnels. Sclérosé, non. Je pense qu'il faut, comme en toute chose, avoir une approche peut-être nouvelle, par contre. Et cette approche nouvelle, elle doit être, à mon sens, orientée beaucoup plus côté terrain, avec quelque chose, une vision beaucoup plus pragmatique peut-être, ou qui paraissent plus pragmatiques. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire comprendre, essentiellement aux entreprises, mais aussi aux particuliers, que la sécurité informatique, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut savoir se protéger. Ça, c'est des réflexes qu'on a réussi à prendre dans notre vie biologique, si j'ose dire, et on ne l'a pas dans notre vie numérique, où on manque singulièrement de conscience.
Il n'y a qu'à voir, le succès de certains applicatifs online où les gens finalement s'engouffrent sans trop se poser de questions en mettant des contenus dont ils ignorent à qui ils appartiennent une fois qu'ils les ont mis sur l'applicatif en question. Je pense notamment à Facebook, pour ne pas le citer, qui en 2009 s'était vu par la Cour suprême du Québec ou du Canada dire la clause de propriété des contenus, il faut que vous la viriez, parce que quand même les gens, c'est leur photo à eux, c'est quand même dégueulasse que vous puissiez les exploiter pour faire de la pub, etc. Donc, et c'est vrai que quand on dit ça en France aux gens, ils disent « Ah bon ?»
Oui, effectivement, il y a un manque singulier de conscience, et je dirais que si on arrivait à faire prendre aux gens les mêmes réflexes, la même conscience qu'ils peuvent avoir dans leur vie de tous les jours vis-à-vis de l'outil numérique, on ferait un bond en avant dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a, c'est même plus de l'inconscience hein, aujourd'hui. Il y a l'utilisation de moyens techniques qui est faite complètement de façon hallucinante hein, quand on y réfléchit. Et c'est vrai qu'on parle de Facebook, mais il y a plein d'autres outils. Mais en particulier les smartphones qui arrivent aujourd'hui, dont tous les enfants sont équipés. Il y a tout un tas d'outils qui sont extrêmement dangereux en termes de sécurité. Je sous-entends effectivement pour la protection des données personnelles, pour toutes ces choses-là. Et il y a une sensibilité qui n'est pas là. Donc il y a un vrai travail de fond, qui est un travail de sensibilisation, qui est un travail de terrain à mener. Et les manifestations qu'on organise depuis longtemps, que ce soit les déjeuners de la sécurité, puisqu'on a créé un réseau sur plusieurs villes de France où on anime tous les mois ce style de sensibilisation auprès de chefs d'entreprise, cette JSSI, c'est ce travail de fond, c'est ce travail qu'on essaie de mener dans le temps, parce que ça ne pourra passer qu'avec le temps, sur une sensibilisation à la fois des professionnels, mais de tous les acteurs, parce que tout le monde doit être concerné et on doit le gérer au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à emmener cet éveil de conscience, ces formations au niveau des écoles, au niveau des centres de formation. Il faudrait l'amener au plus bas niveau pour faire monter en fait ce niveau global de sécurité.
Mmh. Alors je prenais un exemple volontairement trivial, Facebook, etc. C'est les gens qui utilisent, mais la sécurité informatique, quand on est une banque, une assurance, quand on est la défense nationale ou la gendarmerie, etc., bah forcément, c'est quand même des choses un petit peu plus sensibles que mes photos de vacances sur Facebook. Est-ce que le logiciel libre et la sécurité, est-ce qu'il y a une sécurité informatique en dehors du logiciel libre, étant entendu que si on a une solution informatique propriétaire pour gérer sa sécurité, on est obligé de faire confiance à l'éditeur du dit logiciel qui nous garantit que mon logiciel ne fait que ce qu'il est censé faire et rien d'autre.
Alors, en venant ici, je savais que Gilles ne me raterait pas là, sur ce sujet-là. Donc ça me permet justement de poser les choses très clairement. Moi aujourd'hui, certains d'entre vous certainement me connaissent, ça fait très longtemps que j'œuvre dans le domaine du logiciel libre. Le fait de travailler dans la sécurité et d'avancer justement avec l'entreprise que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger me permet de dire que on ne peut pas être aussi avoir un avis aussi tranché. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un état des lieux, il y a une omniprésence dans plein de secteurs du logiciel propriétaire et nous, on se doit de le gérer et on se doit de l'appréhender avec déjà la meilleure connaissance possible et d'essayer d'apporter des comportements qui sont éduqués. Alors, à partir de là, effectivement, dans le logiciel libre, il y a des solutions qui sont à privilégier, il y a des solutions qui sont crédibles, il y a des solutions qui fonctionnent très bien. Par contre, tout le monde n'est pas prêt à les adapter. Et ça, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, il faut faire attention parce qu'en fait, en permanence, notre travail, c'est une quête entre un rapport coût-efficacité. Et parfois, je me suis moi-même entendu dire à certaines personnes que ce n'était pas en leur faveur d'aller vers le logiciel libre. Mmh. Ceci étant dit, je suis un fervent défenseur, je le répète. Je dirige une société aujourd'hui où tout est en logiciel libre. Mais il faut vraiment réfléchir aux choses dans leur contexte, dans un contexte qui est beaucoup plus global et souvent dans un environnement économique également.
Alors, lors de cette journée, c'est toi qui feras la conférence d'ouverture. Ce sera 9h40 du matin, il faudra vous lever tôt. Ensuite, on parlera de sécurité des périphériques mobiles, on parlera de loi informatique et liberté, êtes-vous en conformité, point d'interrogation. On parlera des risques et menaces des applications web, puisqu'elles sont effectivement de plus en plus utilisées, notamment les agendas, les trucs Doodle et Google et Poodle, non ça c'est les canines. Mais enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de Frank Zappa. L'état de l'APT, en ce qui concerne les attaques ciblées, ça parlera à ceux qui comprennent ce que je suis en train de lire. Et puis la fourniture d'accès à Internet et au réseau local, droits et obligations de l'entreprise, intelligence économique et entreprise, conférence de clôture pour terminer à 17h30. Donc pas mal de sujets qui seront amenés. Et c'est vrai que quand on prend en considération que finalement le premier employeur en France, comme le dit le message le message corporatiste des PME, c'est les petites et moyennes entreprises dans lesquelles on peut s'imaginer effectivement que l'intelligence de la sécurité informatique est moins présente que dans les grosses sociétés qui se sont posées ce type de questions depuis fort longtemps, quand bien même elles n'auraient pas nécessairement trouvé les bonnes réponses. Donc c'est en Languedoc-Roussillon aujourd'hui, c'est vers les PME que se tourne finalement cette journée ou plus généralement vers tout le monde.
Vers tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, on vise d'abord naturellement le milieu professionnel parce que c'est le premier acteur à défendre puisque c'est notre patrimoine en tant qu'État. Donc c'est le premier. Il faut faire vivre et survivre nos entreprises. Donc on se tourne d'abord vers les acteurs professionnels. Mais comme je le disais tout à l'heure, former les individus, les particuliers, c'est former l'entreprise également. Hein. Donc c'est-à-dire que les gens qui veulent y venir seront bien bienvenus, même à titre particulier. Ceci étant, naturellement, on va d'abord viser le vivier qu'on a ici en Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire les TPE et les petites PME, mais on a déjà, parmi les gens qui sont inscrits, des très gros groupes et des ministères. Et c'est normal, tout le monde est concerné. Il y a un travail de fond à faire, il y a un travail à mener, il y a des choses qui se font, mais dans ce domaine-là, plus qu'en tout autre certainement, il faut remettre sur la table à chaque fois le travail et continuer à avancer en permanence. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Beaucoup de TPE et de PME n'ont même aucune conscience des dangers auxquels elles sont exposées. Dangers qui sont, et tu l'as bien souligné en lisant un petit peu le programme, qui sont de nature très diverse parce que ça peut être des natures juridiques, ça peut être de la nature technique, ça peut être de l'organisationnel, ça peut être tout un tas de choses.
Alors ça se déroulera au premier étage de l'hôtel de l'agglomération de Montpellier, donc soit tout le monde sait où c'est le quartier Antigone. J'imagine autour de ces conférences, ce sera l'occasion aussi pour les gens de, justement, entre les conférences, de discuter, d'échanger. Est-ce que dans l'organisation du planning de la journée, il y a des croisements comme ça qui ont été aménagés?
Oui, alors d'abord, la manifestation regroupe deux choses. Elle regroupe un ensemble d'interventions, donc de conférences. En fait, il y a 6 conférences plus une conférence d'ouverture et une conférence de clôture. Donc, il y en a 8 en tout. Ces 6 conférences sont animées par des experts du domaine. Hein. On a des gens qui viennent de Paris. On a essayé de privilégier des experts locaux pour montrer qu'il y a un vrai savoir-faire en Languedoc-Roussillon. Et je vous certifie qu'il y en a un, hein, donc des experts locaux. Mais ce sont des experts de très haut vol qui interviennent, certains au niveau européen, etc. Donc, on a vraiment des compétences régionales. La deuxième chose, c'est un salon. Donc, on a essayé d'identifier une douzaine de structures qui sont expertes dans le domaine, dans la sécurité, qui viendront exposer ces savoir-faire et qui répondront au public et aux visiteurs. Donc effectivement, à l'intérieur de ce salon, il y aura moyen de croiser à la fois les professionnels, les conférenciers. On espère réellement qu'il va se créer une dynamique autour de cette chose-là.
Éventuellement, avant de se quitter, des soutiens à cette JSSI première du nom à remercier.
Oui.
C'est jamais facile d'organiser un salon et j'imagine que l'hôtel de l'agglomération vous a accueilli pour cette occasion.
Tout à fait. Alors,
aussi.
Je ne veux pas tirer tout de suite à boulet rouge. Je laisse le plaisir aux gens de venir à la conférence d'ouverture que je vais animer pour pouvoir tirer sur les gens sur qui j'ai attiré. Donc, je ne le ferai pas à la radio.
Mais ceux qui vous ont pas aidé.
Voilà. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est extrêmement difficile de trouver des soutiens. Surtout dans le domaine de la sécurité. Et on est quand même, comme quand on organise toute manifestation pour la première fois, surtout de cette envergure, on a beaucoup de gens qui sont un peu frileux parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de s'investir à perte. Donc effectivement, je salue ici Epitech, l'école de Montpellier, Epitech Montpellier, qui nous a fourni un très très gros soutien, à la fois humain et technique, naturellement l'aglo qui nous fournit les locaux, bien sûr. Mais il y en aura d'autres qui seront remerciés en temps. Mais effectivement, c'est les deux acteurs que je dois remercier le plus.
Très bien, Eric, merci. On rappelle que c'est ce 26 mai que ça se passe, donc à l'hôtel de l'agglomération au premier étage. À ne pas rater, si ça vous concerne, et même si ça ne vous concerne pas, allez-y. Sans doute que ça vous concerne, parce qu'aujourd'hui, la sécurité informatique concerne tout le monde, qu'il s'agit de protéger ce qu'on a dans son ordinateur ou de protéger son ordinateur de ce qu'il y a à l'extérieur de son ordinateur.
Ce sera un petit peu le mot de la fin pour moi. J'ai envie de dire, il faut être conscient que la sécurité, ce n'est pas un métier à part entière, ce n'est pas une spécificité, c'est une façon de voir les choses. Et aujourd'hui, il faut rendre à chaque acteur, à chaque individu, son potentiel en termes de maîtrise de son système d'information. Donc ça concerne effectivement absolument tout le monde. Venez-y, vous pourrez voir effectivement en quoi ça consiste et que ça concerne tout le monde, hein, surtout si vous êtes artisan, petit chef d'entreprise, etc. Tous les détails sont sur le site internet, hein, jssi-montpellier.org. Okay.
Voilà, avec ou sans les 3 W, ça marche quand même, jssi-montpellier.org. On peut aussi citer la CCI qui vous a filé un coup de main, ou Transfert LR de la région. Et c'est vrai que les collectivités locales sont censées donner l'exemple en matière d'utilisation des logiciels libres. On va y venir avec notre prochain invité, mais après une petite pause musicale que Pascal va nous détailler.
Et oui, on va écouter Western. de Nomads Bass Drive, un artiste extrait de cette compilation par Fresh Pulp Records, la Dub Tentacles volume 3. Vous l'aurez compris, c'est du dub, c'est tout de suite sur Divergence Numérique.
Brightest hopes extinguished now and gone from us forever.
Pour toujours et pour toujours.
Western par Nomads Bass Drive, extrait de la compilation Dubtentacles, volume 3 de Fresh Pulp Records, fresh-pulp.net en licence Creative Commons by NCSA 2.0.
2.0. Et donc on parlait juste avant avec Eric Bullier eh bien de la JSSI qui se tiendra sur la sécurité informatique à l'hôtel de l'agglomération au premier étage le 26, et gageons que il y aura pas mal de gens qui auront été la veille à la 8e journée territoriale du logiciel libre à Montpellier, le rendez-vous des collectivités pour échanger sur les bonnes pratiques du libre et partager des retours d'expérience territoriale. Une journée co-organisée par Cogitis et la Dulacte, je me trompe pas, c'est bien
c'est
ça.
C'est ça, c'est bien ça.
Voilà, et tout ça, vous venez d'entendre la voix de notre second invité, qui est le délégué général de la Dulacte, l'association des utilisateurs de logiciels libres, destination des des administrations et des collectivités territoriales. J'ai pas de souris, je suis tout perdu. Pascal Fedel qui est avec nous et qui va pouvoir nous parler évidemment de ça, mais aussi du congrès de la Dulac dont on disait tout à l'heure au sommaire qu'il se déroulera fin juin, les 23 et 24 juin pour la troisième édition de ce congrès. On rappelle, la Dulac a été formée il y a déjà quelques années. On entend dans le petit générique qu'on a concocté pour la revue de presse de l'April, votre président François Elie dire « l'argent public ne doit payer qu'une fois ». Hein, c'est un des leitmotifs. Donc, c'est une association qui s'est créée il y a quelques années déjà pour sensibiliser les collectivités locales et territoriales à l'informatique, au logiciel libre, puisqu'on sait bien qu'elles avaient tendance à n'y rien comprendre et à tout sous-traiter.
Absolument. Donc, on s'est créé en septembre 2002 exactement, donc à l'initiative de François Elie et d'autres directeurs informatiques de collectivités comme Besançon et Lille. Et non seulement on souhaitait donc des bonnes pratiques, mais notre volonté était de créer à terme un patrimoine de logiciels libres métiers pour les collectivités. Donc on n'a finalement pas inventé grand-chose, on a singé le modèle qui a fait naître Linux, OpenOffice et Apache dans les collectivités pour les logiciels métiers, parce que développer sur Apache, c'est intéressant, l'informaticien se fait connaître, il y a son nom, ça devient une star. Dans une ville, être informaticien et faire du logiciel libre pour personne ou presque, on ne devient pas très connu. Mmh. Donc il fallait enclencher le mouvement et l'association s'est créée sur ces principes.
Avec l'objectif de mettre en place une forge, comme on dit, hein, une forge pour développer des logiciels. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu le même truc. Participer bénévolement ou en partageant le fruit de son travail pour faire un jeu vidéo, pour faire Ardour ou pour faire des trucs super sexy, c'est super sexy effectivement, comme le dit souvent François Elie, développer un logiciel de gestion de cimetière ou de cadastre ou que je ne sais trop quel truc, c'est pas du tout sexy, mais nonobstant ce sont des logiciels qui pour l'utilisateur final, notamment pour le citoyen, c'est bien quand c'est en ligne en pleine mode de l'open data dans laquelle on est en ce moment, ça tombe à pic, et puis aussi ça permet justement aux collectivités de ne payer qu'une fois et puis d'avoir une meilleure maîtrise, puisque finalement, peut-être que pour le prix de toutes les licences qu'une collectivité avait pu payer à un certain moment, on pouvait avoir deux ingénieurs informatiques maison qui nous garantissent la maîtrise de nos outils, le fait que nos outils ne font que ce qu'ils sont censés faire, et puis de reverser ces contributions pour d'autres collectivités locales qui, évidemment, ont le même type de soucis et de préoccupations.
C'est certain. Et donc, pour reparler de cette forge, donc, c'est un site de développement en ligne qui permet à tout un chacun de déposer du code source, mais pas seulement. On détecte une anomalie, et bien on vient la décrire, et le développeur en question vient apporter les corrections. Donc pour revenir sur justement l'utilisation au mieux des deniers publics, il est bien évident que développer pour le compte de sa collectivité et le mettre à disposition de tous, c'est bien le but de l'opération. Et la Dulac a sa fonction essentielle et un vecteur pour distribuer ce code source. Alors pour parler pas des succès, mais des plus gros dépôts, le dépôt fondamental pour nous, ça a été la ville de Paris, qui a développé un outil pour publier ses informations donc sur Internet avec un portail qui s'appelle Lutèce. Et donc ça, c'était un véritable départ pour l'association, puisque la ville de Paris a investi initialement presque 1 million d'euros et a mis à disposition ce code source pour tous. Et aujourd'hui, non seulement des villes françaises utilisent ce portail, mais des villes en Europe, notamment en Allemagne, en Italie. Donc c'était un véritable succès et ça a mis sur les rails le logiciel libre côté collectivité avec un dépôt aussi important. Et d'autres collectivités, par la suite, ont suivi, ont fait du développement interne et l'ont mis à disposition sur notre site. Et de là, on a vu donc pas mal de téléchargements.
Alors j'imagine qu'une des missions, encore aujourd'hui, de la Dulac, c'est aussi d'expliquer, de faire de la pédagogie auprès des élus, puisque c'est quand même eux qui décident. Et là, ça ne doit pas toujours être super facile, puisque l'informatique, ça n'a pas quand même d'hier. Et il a bien fallu s'en servir sur des modèles propriétaires, avec toutes les compromissions possibles et imaginables, de copinage, de tels trucs. On l'a vu au niveau de la Commission européenne, il n'y a pas si longtemps, où même si elle n'était pas obligée de le faire, elle a préféré reconduire tacitement son contrat avec l'entreprise de Redmond, alors qu'elle incite elle-même à utiliser du libre. Enfin, y a quand même, j'imagine que c'est le plus dur finalement, est-ce que c'est pas d'aller voir les collectivités et de leur expliquer?
Alors ça a été difficile au départ. En 2002, il est vrai qu'on avait un rôle essentiellement de pédagogie, d'expliquer aux informaticiens, aux élus. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans ce rôle-là. Mmh. Non seulement tous les directeurs informatiques ont compris l'intérêt du libre, alors en y souscrivant ou non, mais en tous les cas en y regardant de plus près. Et les élus aussi sont totalement sensibilisés. Une anecdote très rapidement. En 2002, un directeur informatique qui faisait un choix Oracle ou Business Object n'était jamais en danger. Aujourd'hui, un directeur informatique qui ne fait pas une recherche systématique du meilleur outil possible en regardant le libre est en danger. Voilà la vraie différence aujourd'hui. Et ça, ce sont les élus qui ont permis cette confrontation entre libre et propriétaire. Donc les mentalités ont largement évolué de ce point de vue.
Alors le programme de cette journée du 25 démarre à 9h30. On précise que ça se passe où d'abord?
Ça se passe à l'ISEM, donc à la fac d'éco, à l'entrée de la ville. Donc on a l'habitude maintenant de prendre nos quartiers sur cette manifestation. On y est bien accueilli, l'amphithéâtre est de qualité et on peut accueillir largement les 200 personnes que nous attendons.
Alors à 9h30, ça démarre avec un café d'accueil et une ouverture de la journée avec justement l'intervention de François Hilly, président de la DULACT, avant de céder la place à quelque chose qui, j'imagine, sera assez attendu, un retour d'expérience de la gendarmerie sur le poste de travail libre avec le lieutenant-colonel Vincent Bérézia, qui est chef du bureau coordination et conception projet à la Direction générale de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale dont on s'est fait l'écho régulièrement dans Divergence numérique des bons choix bien avisés. L'armée elle-même qui dès 2003 avait pris position à travers certains de ses responsables en disant effectivement le CLIM c'est compatible avec la Sûreté nationale, le CLIM propriétaire ça reste à prouver. Et puis ensuite on parlera de services en ligne d'aide sociale à l'enfance avec une expérience en Essonne avec Alexandre Guillard, chef de projet informatique. À 11h ce sera dématérialisation des arrêtés RH au centre de gestion du Nord avec Sylvain Defromont. À 11h30, Rennes Métropole en accès libre. Il s'agira évidemment d'Open Data avec Bernadette Kessler qui est responsable du service innovation numérique de Rennes Métropole. Et puis après la pause de midi, ce sera une web conférence de Pascal Kuzinski, directeur technique de la DULACT sur Open Meetings, un outil collaboratif open source. À 14h30, il s'agira de dématérialisation au Conseil Général de l'Hérault avec urbanisation du SI et choix d'un socle technique. C'est Sylviane Deschamps qui fera cette présentation. Puis à 15h, on parlera d'archivage électronique sur le département des Landes. L'archivage électronique est très à la mode dans tous les départements de France. Et il s'agira notamment d'Archiland, la plateforme mutualisée pour l'archivage courant intermédiaire et définitif avec Florent Vert. La journée se conclura avec Richard Bernadac, qui est directeur du syndicat mixte Cogitis. Donc une journée qui sera chargée de retours d'expérience, en fait.
Oui, et très éclectique. Donc, comme vous l'expliquez, on va commencer par la gendarmerie, donc, qui migre petit à petit tous ses postes de travail. Alors, la bureautique libre est déjà implantée sur tous les postes de travail dans la gendarmerie, mais la gendarmerie a été un temps plus loin en mettant son système d'exploitation sous Linux, Ubuntu. Donc ça, c'est une vraie grande première en France. Donc une administration centrale qui passe sur un poste libre, c'est tout à fait intéressant. Et donc on aura ce retour d'expérience sur le sujet. Toutes les interventions autrement sont bien sûr liées à des projets qui sont totalement opérationnels aujourd'hui dans des collectivités. Donc le département de l'Essonne a développé un outil très, très intéressant, enfin, pour un sujet grave d'ailleurs, puisque c'est le placement d'enfants en danger. Et donc cet outil-là est aujourd'hui très, très regardé par bon nombre de départements en France. Près de 40 sont intéressés par ce développement. Donc voilà, la DULACT joue vraiment ce rôle de pivot pour la distribution. Mmh. J'ajouterai un petit mot quand même sur notre partenaire sur cette manifestation, qui est Cogitis, qui est un syndicat mixte composé de plusieurs départements avec qui nous faisons ce chemin depuis 8 ans. Donc cette manifestation a commencé, on va dire, petitement, avec 20 personnes dans une salle. Et maintenant, nous attendons, je vous dis, entre 150 et 200 personnes. Donc ça veut dire que le sujet intéresse et qu'on a finalement réussi à mobiliser dans le sud de la France pas mal de monde sur ces retours d'expérience. Et nous avons même des spectateurs parisiens qui font le chemin vers le sud de la France pour écouter ces conférences. Donc ça démontre une certaine pertinence.
Mmh. Un partenariat avec Cogitis qui est un syndicat mixte qui n'est pas exclusivement versé dans le logiciel libre. Donc est-ce que justement ce partenariat pour l'organisation de ça amène une espèce de d'autocritique ou de contrôle plutôt que de se retrouver qu'avec des libristes convaincus qui vont faire un truc?
Non, justement, c'est une forme de mariage de raison. Cogitis a découvert le libre, on va dire pas sur le tard, mais a trouvé des intérêts à l'utiliser et essaye petit à petit au sein de ses propres projets de l'intégrer. Bon, Cogitis ne fait pas systématiquement de la bureautique libre, par exemple, utilise encore des outils Microsoft. Mais néanmoins, quand le besoin s'en fait sentir, Cogitis étudie systématiquement la meilleure option potentielle en logiciel libre. Et malheureusement, si elle ne trouve pas le nécessaire, eh bien, fait une démarche vers l'achat propriétaire. Donc c'est une démarche qui est tout à fait saine. Et nous la cautionnons totalement, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui balayer le passé et être entièrement logiciel libre.
On retrouve tous les détails de cette journée sur www.journée-territoriale-libre.org, que ce soit le détail de toutes ces interventions ou tous les renseignements évidemment utiles. L'ADULACT fera son troisième congrès à Montpellier les 23 et 24 juin. J'imagine qu'on aura l'occasion de vous recevoir à cette occasion toute particulière. Mais peut-être un mot sur ce troisième congrès. Y a-t-il des enjeux majeurs ou des choses comme ça qu'il faudrait annoncer maintenant?
Non, rien de majeur. Alors, juste pour revenir sur la journée du libre, elle est encore ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez vous y inscrire.
Oui, il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire. Évidemment, notre public est plutôt orienté vers les administrations, le monde de la santé, les collectivités. Néanmoins, si vous êtes intéressé par ce type de manifestation, n'hésitez pas à vous inscrire. Au sujet de notre congrès, là, c'est un petit peu différent. On fonctionne un peu en vase clos, puisque ce sont d'abord les adhérents de l'association qui sont invités, puisque la thématique centrale est bien sûr notre Assemblée Générale. Mais néanmoins, nous habillons cette Assemblée Générale avec la réunion de groupes sur des thématiques comme l'archivage électronique, puisqu'il y a un sujet, comme vous l'avez dit, relativement à la mode. Et puis, nous réunissons aussi des collectivités sur des projets totalement neufs. Nous travaillons actuellement sur une gestion de la relation citoyen, donc sujet là aussi éminemment important pour les élus. Comment tracer toutes les demandes d'un citoyen et comment lui apporter les meilleures réponses. Donc voilà, à travers ces deux jours, nous allons donc échanger avec nos adhérents. Alors après aussi, à travers des pauses, des zones d'échange. Nous avons aussi quelques prestataires qui font partie de la manifestation et qui sont là pour apporter aussi leurs témoignages et évoquer les développements qui sont eux-mêmes déposés en libre sur notre forge.
Une force qu'on retrouve, dont on retrouve les coordonnées évidemment sur le site de l'ADULACT.
Bien sûr, www.adulact.org, et vous avez un point d'entrée sur la droite de notre page d'accueil sur cette forge. Alors bien évidemment, il faut passer un petit peu de temps pour bien comprendre le mode de fonctionnement et trouver les outils voulus. Mais avec un petit peu d'effort, on peut s'en sortir. Et puis surtout, notre équipe est disponible auprès des interrogations des uns des autres.
Pascal Fedel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes délégué général de la DULACT. On aura sans doute l'occasion de réévoquer le congrès de fin juin. Et puis on imagine que la DULACT sera aussi présente aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg.
Bien sûr, et nous animons le thème collectivité locale comme l'année dernière. Et nous espérons que bientôt la ville de Montpellier accueillera les rencontres mondiales.
Alors oui, c'est dans les tuyaux, pas mal de gens en parlent. Et Pascal qui nous écoute sans rien dire, mais qui n'en pense pas moins.
On compte bien les faire venir ici, les rencontres mondiales.
On compte bien les faire venir ici. Pour l'instant, Pascal, c'est lui qui va à Strasbourg pour se taper le réseau des Remeleleux. Mais c'est une autre histoire, une histoire que nous n'aurons pas le temps d'évoquer, car on s'est mis super à la bourre, les bons amis. On va tout de suite écouter l'interview de David Revoy, un jeune artiste toulousain autodidacte de 25 ans qui est présenté.
Je pense que vu l'heure et vu l'actualité chargée, on va peut-être la laisser pour la semaine prochaine. Ce serait peu la couper. C'est un peu dommage.
Sinon, on déborde et on explose le format de divergence numérique. Mais non, nous ne retiendrons pas cette option. Car ce serait trop débordé. Eh bien, tant pis pour vous qui vous réjouissiez d'écouter tout ça, eh bien, ce sera la semaine prochaine.
Ce sera la semaine prochaine, mais vous êtes fidèles, alors donc à la semaine prochaine. Mais en attendant, on va se faire une petite pause musicale avant nos agendas traditionnels du libre, avec un dernier extrait de cette compilation d'Up Tentacles du net label orléanais Fresh Pulp, fresh-pulp.net, qui sera sans doute présent aussi au rencontre mondiale du logiciel libre à Strasbourg, puisque c'est programmé par Musique Libre et Dogmazic. Et puis on va donc écouter My Girl Clone par Early Worms.
Early Worm, c'est un insecte d'alcoolique, puisque c'est le ver du matin.
Le ver du matin, le ver, l'animal en tout cas, by NCSA en Creative Commons. Clone par Early Worm, extrait de Dub Tentacle volume 3 sur la Fresh Pulp release, une compile que l'on retrouvera dans la prochaine. Elle est libre, ma musique évidemment.
Et donc on vous passera les rendez-vous des 25 et 26 puisqu'on en a abondamment parlé dans cette divergence numérique, mais en guise d'agenda du libre, bien qu'avons-nous à nous mettre sur la dent
une install party à Téhéran ce samedi 21 du matin à la médiathèque de Téhéran, place du Ballon.
Ou encore le 25, si vous êtes à Toulouse, eh bien, il y aura une rencontre logiciel libre et présentation des nouveautés d'OpenStreetMap.
Alors en allant un petit peu plus loin, on a l'Assemblée Générale Annuelle de Facile, donc c'est à Montréal, c'est au Québec. Facile qui est au centre de loisirs communautaires La Jeunesse.
Et puis si on fait un petit tour sur agendadulibre.be et qu'on appuie sur la touche entrée de son navigateur, eh bien parfois ça met vachement de temps à se charger.
Alors par exemple, il y a à Brenne, là, le culbut.be Ubuntu 11.04 install party, désinstall party en tout cas, un petit peu partout pour la 11.04.
Et puis moi je crois qu'on a fini là, on est en train de déborder mon ami Pascal, et quand on va être rediffusé sur Radio Escapade, ça va couper net.
Non. Il laisse.
Ah cool.
Alors donc, la semaine prochaine.
Et d'ici là, restez libre.
Terror States.